divagabondage du Spoutnik Air, c'est le format court de la capsule spatiale diffusée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Nous vivons dans un monde rempli de contradictions, auxquelles, chaque jour, on s'efforce de faire face. Autour de nous, tout change, évolue, se modifie parfois profondément, et pourtant, levez la tête en l'air et vous observerez à peu près la même chose que Galilée il y a plus de 400 années. Ce ciel évolue pourtant, oui, on le sait, on le voit, on l'a vu, mais voilà qu'il est nonchalant et évolue particulièrement lentement. Pour le voir, ne serait-ce que sourciller, il faut alors pousser le curseur du nombre d'années, le pousser jusqu'à parfois en perdre pied, le tout dans un vertige qui balance entre la terreur et l'ivresse le malheureux qui commencerait à y prendre goût. Alors, voilà face à nous une antagonique dualité, difficile à intégrer dans nos vies ancrées dans un instant T. Et pourtant, elle est là, dehors, chaque soir, ostentatoire. Qui serait alors dans ces conditions assez fous pour s'aventurer à donner une chronologie à cet ensemble qui tend vers l'infini? Bienvenue Spoutnikterien, à bord de ce nouveau divagabondage, le format court de votre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Le mois dernier, nous avons, dans notre format long, ouvert un grand chapitre sur la planète Mars. Le premier volet de cette série s'intéressait à l'histoire commune que nous avons avec notre délicieuse voisine rouge. Je vous invite par ailleurs à aller faire un tour sur le site de Radio U pour écouter cet épisode si vous l'avez manqué. Le second volet de cette aventure sera diffusé le mois prochain et s'intéressera quant à lui à l'histoire géologique de Mars. Entre les deux, on va évidemment rester dans le thème et j'aimerais avec vous discuter aujourd'hui d'un problème. Mais avant d'en venir au problème en question, il faut que l'on repose le contexte. Vous vous en doutez, avec ce que j'ai pu dire dans l'introduction, il y a évidemment eu des fous qui se sont attachés à trouver une chronologie à tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Du Big Bang, la naissance de l'univers, aux hypothétiques Big Freeze ou Big Crunch, la fin de l'univers, il y a vous, nous, bref, plein de choses, et parmi elles, il y a évidemment notre fragile cocon, la Terre, et avec elle, le système solaire. Il y a plusieurs épisodes de cela, je vous avais expliqué comment, à partir d'un disque de gaz et de poussière, notre Soleil avait fini par émerger. Le centre du disque était alors si chaud et dense que les atomes d'hydrogène avaient fini par fusionner, dégageant lumière et énergie, notre Soleil était né. Mais autour de lui, point de planète, de lune ou d'astéroïdes. Notre jeune étoile, particulièrement vorace, avait en effet utilisé pour sa création plus de 99% de la masse du disque initial, ne laissant derrière elle que des miettes. Mais quelles miettes, me direz-vous, un peu outré et à juste titre, car c'est à partir de ces dernières que vont émerger l'ensemble des objets présents aujourd'hui dans le système solaire. Petit à petit, particule après particule, notre fine poussière s'est assemblée. D'abord en petites pelotes, puis en boules, puis en blocs de roche et de glace qui, de collision en collision, de désintégration en réagglomération, ont fini par former les planètes que l'on connaît aujourd'hui. Ce processus, on l'appelle l'accrétion. Mais pour passer d'un disque de poussière de gaz en vrac à un ensemble de planètes joliment alignées, il y a des milliards d'années et une succession d'événements difficiles à remonter. Alors, comme dans une enquête policière, on cherche des traces, des faits, des indices, et on tente de reconstruire un passé oublié. Ce job met à profit des observations, faites depuis la Terre ou avec des sondes, beaucoup de chercheurs et des simulations informatiques. Pour faire fonctionner ces simulations, il faut savoir trois choses. Tout d'abord, ce que l'on veut trouver, c'est-à-dire comment les planètes du système solaire se sont formées. Ensuite, il faut savoir avec quel mécanisme on pense que cela a pu se produire. Ça, c'est les lois de la physique. Enfin, il faut savoir quelles étaient les conditions initiales, c'est-à-dire la masse et la distribution des matériaux au sein du disque de gaz autour du Soleil. Pour les deux premiers, ça va, on connaît. Le système solaire, on l'a sous les yeux, et les lois de la physique, globalement, pour ce genre de problème, on maîtrise. Pour le troisième, en revanche, c'est un peu plus compliqué, car on n'était évidemment pas là au moment de la formation du système solaire pour savoir à quoi il ressemblait, ce fameux disque de poussière. Mais heureusement, on peut tricher, enfin un peu. Car avec des télescopes, on peut observer d'autres étoiles, d'autres systèmes qui sont actuellement en formation. Un des plus connus est HL Tauri, un système dont le disque d'accrétion est particulièrement visible. Alors, à partir des théories et de l'observation, on peut estimer la masse et la répartition des matériaux au sein du disque d'accrétion disparu de notre propre système solaire. On a donc nos conditions initiales et notre simulation est complète, elle peut être lancée. Là, si toutes les hypothèses sont correctes, alors la simulation donnera, lorsqu'elle sera terminée, l'image d'un système solaire proche de la réalité, avec des planètes de la bonne taille et au bon endroit. Le hic, c'est qu'une fois les simulations terminées, eh bien, il y a un problème avec Mars. La planète rouge est en effet trop petite dans la réalité pour coller aux simulations. On relance alors toute une série de simulations pour comparer les résultats, et on fait le constat suivant. Sur toutes les simulations effectuées, très peu montre à la fin un système solaire semblable au nôtre. Il y a donc très peu de chances qu'avec nos hypothèses, on arrive à obtenir une planète Mars de la bonne taille, semblable à celle qu'on peut observer dans la réalité. Très peu de chances, mais c'est possible, si on a été très chanceux. Ou pas, ça dépend des points de vue. En tout cas, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème avec la taille de Mars. Mais bon, il faut bien avouer que ce ne serait pas très drôle. L'autre possibilité, bien plus excitante, c'est qu'il y ait eu un couac, un événement imprévu qui ait chamboulé le disque de gaz et donc perturbé la formation de Mars, et donc sa taille, ce qui voudrait dire que nos hypothèses de départ étaient fausses, ou en tout cas incomplètes. Des chercheurs se sont donc creusé la tête pour élaborer un complément et corriger les hypothèses avec une nouvelle théorie plutôt incroyable à laquelle ils ont donné un nom. Et il faut bien l'avouer, c'est un nom qui claque. Ce nom, c'est le grand TAC. Le grand TAC, c'est une théorie proposée en 2011 dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Son but est donc de répondre à la question suivante. Pourquoi Mars est-elle toute petite à l'échelle du système solaire? Et pour répondre à ça, eh bien, il faut aller voir du côté de Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, et aussi la première à s'être formée. On l'a vu plus tôt, pour se former, les planètes ont en quelque sorte collecté de la poussière et du gaz dans le disque d'accrétion autour du Soleil. À la manière d'un bonhomme de neige, la naissante Jupiter, en tournant autour du Soleil, a formé un sillon dans le disque de gaz au fur et à mesure qu'elle en récupérait le contenu. À partir d'un moment, cela a modifié la répartition des masses au sein du disque et perturbé l'orbite de Jupiter, qui a commencé à migrer. Oui, vous avez bien entendu, la plus grosse planète du système solaire a commencé à mettre les voiles, et pas qu'un peu. Partie d'une distance de 3,5 unités astronomiques, c'est-à-dire 3,5 fois la distance Terre-Soleil, Jupiter va se rapprocher jusqu'à 2 unités astronomiques, soit à peu près la distance actuelle de Mars. À partir de ce moment-là, Jupiter aurait pu se rapprocher encore plus du Soleil, devenant ce qu'on appelle un Jupiter chaud, un type de planète de la taille de Jupiter orbitant très proche de son étoile et plutôt courant dans les autres systèmes stellaires. Mais cela n'est jamais arrivé, car en même temps que Jupiter s'offrait une petite balade, Saturne s'offrait exactement la même chose, mais en plus rapide, se rapprochant de plus en plus de notre première fuyarde. À partir d'un moment, les deux planètes ont été si proches qu'elles sont entrées en résonance 2-3. Concrètement, cela veut dire qu'elles se calent l'une sur l'autre à cause de leur gravité respective et que quand Jupiter fait 2 tours autour du Soleil, Saturne en fait 3. Cet attelage planétaire, pas vraiment stable sur le long terme, va inverser la course des deux géantes qui vont repartir en marche arrière, vers l'extérieur du système solaire. Le truc, c'est qu'en faisant ça, elle pousse également vers l'extérieur Uranus et Neptune, les deux autres géantes gazeuses du système solaire. Bon, c'est un peu dense, je vous l'accorde, donc on va prendre 2 secondes pour réaliser un peu le schmilblick. On a donc Jupiter et Saturne, qui ont toutes deux été poussées vers l'intérieur du système solaire au moment de leur formation, car elles ont déstabilisé le nuage de gaz en s'accaparant une partie de la matière de ce dernier. En se rattrapant l'une l'autre, elles ont créé un nouveau phénomène qui les a repoussées cette fois-ci vers l'extérieur du système solaire, en embarquant dans leur course Uranus et Neptune. On a donc à ce moment-là 4 géantes gazeuses, d'une masse totale équivalente à un peu moins de 450 fois la Terre, qui font du yo-yo dans le système solaire. Ouais, je sais, c'est dur à avaler, mais le pire dans tout ça, c'est que ça marche vachement bien pour expliquer la taille de Mars, et qu'en prime, ça répond à d'autres questions. Pour la taille de Mars d'abord, le voyage de Jupiter jusqu'aux 2 unités astronomiques dont on parlait tout à l'heure ne s'est pas fait en un éclair, mais sur un très long moment. Jupiter n'a pas voyagé en ligne droite, mais a continué à tourner autour du Soleil, réduisant progressivement son orbite et en décrivant des cercles de plus en plus petits. Alors, comme quand vous tondez votre pelouse en décrivant des cercles de plus en plus petits jusqu'à avoir tondu tout votre jardin, Jupiter a en quelque sorte tondu le disque de poussière jusqu'aux 2 unités astronomiques, et même un peu plus loin, en gagnant en passage de la masse, mais surtout en vidant une grande partie de la poussière des régions qu'elle traversait. Une fois reparti vers l'extérieur du système solaire, eh bien, il ne restait plus grand chose à se mettre sous la dent là où Mars s'est formé. Alors, là où la Terre ou Vénus ont toutes deux eu la poussière nécessaire pour devenir grande et grosse puisque Jupiter n'est jamais arrivé jusqu'à leur orbite actuelle, Mars a eu moins de chance, et n'ayant pas beaucoup de matériaux à disposition, est devenue la petite planète que l'on connaît. Ce qui est sympa avec cette théorie du grand axe, c'est qu'en plus d'expliquer la petitesse de Mars, la théorie explique également en partie la composition et la masse de la ceinture d'astéroïdes, ou encore l'absence de ce qu'on appelle des super-terres. Des planètes rocheuses d'une masse comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune, et qui sont plutôt fréquentes dans les autres systèmes stellaires. La petite balade de Jupiter aurait en effet causé la destruction d'éventuelles super-terres déjà formées au moment des événements, ne laissant derrière elle que des restes, ayant participé à la formation des planètes rocheuses actuelles, dont la Terre. Le grand hack nous révèle donc un visage du système solaire modelé selon les caprices de Jupiter, dont les pérégrinations durant son jeune âge ont eu un impact sur la composition et la position de toutes les planètes que l'on peut apercevoir aujourd'hui. Aussi, si le grand hack bénéficie d'un support conséquent de la part de la communauté scientifique et qu'il fonctionne plutôt bien, il n'en reste pas moins une théorie parmi d'autres pour expliquer la petitesse de Mars. Il n'en soulève pas moins l'incroyable hasard qui prend part dans la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Notre système n'est probablement pas plus particulier qu'un autre, et on comprend alors aisément la difficulté de trouver une planète similaire à la Terre dans un autre système solaire, tant les événements qui ont mené à la création de notre belle planète bleue sont nombreux et pour la plupart fondés sur le hasard. Une bonne occasion alors de mesurer la chance que l'on a d'habiter ce joyau si singulier qu'il faut à tout prix préserver. Allez, en attendant de nous retrouver pour un prochain divagabondage, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutnik Terre. C'était les divagabondages du Spoutnik Terre, le format court de la capsule spatiale de Radio U. Si vous souhaitez écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnik Terre, toutes nos émissions, avec en bonus quelques précisions. Quant à nous, on se retrouve à la même heure le mois prochain pour de nouvelles pérégrinations. En attendant, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutnik Terre.
Ah.